l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, une demi-heure, hein, ça va être un peu court. L'esprit de pauvreté, je vous le disais tout à l'heure, c'est ce que l'Église enseigne, parce que l'Église ne laisse pas orphelin, hein. L'Église ne laisse pas orphelin, elle nous enseigne comment on fait pour vivre de l'espérance d'une manière continuelle. Faire des actes d'espérance, c'est génial. C'est vrai, c'est génial. C'est ce qu'on disait ce matin, l'acte d'espérance, Seigneur, j'espère en ce moment, je sais, j'ai une confiance totale qu'en ce moment tu fais jaillir toutes les grâces qui sont sorties de tes mains depuis le début de la création jusqu'à la fin du monde. En ce moment, tu les fais jaillir, tu les fais passer par mon sein, par mon cœur spirituel, par mon affection, par ma dilection. En ce moment, toutes ces grâces et le bonheur éternel de l'autre en ce moment ici traversent mon cœur en ce moment. Et du coup, ça se fait. Vous le savez, hein. Dès lors que vous faites cet acte, ça se fait. On a un pouvoir infaillible là-dessus. C'est le baptême qui nous donne ce pouvoir. Et évidemment, si je ne sais pas que j'ai ce pouvoir, je ne l'utilise pas. Il faut toujours se rappeler qu'il faut faire des actes d'espérance. Mais un acte d'espérance implique une totale... Il n'y a plus rien que ça, quoi. Et ça ne dure que quelques secondes. Maintenant, pour que ces torrents qui jaillissent d'un seul coup s'écoulent continuellement, tout le temps, même quand je dors, il faut vivre de l'esprit de pauvreté. Comment est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on va essayer de regarder. Je vous donnerai une feuille à chacun. Je voulais vous la porter, puis je vous donnerai tout à l'heure pour la donner à Castel. J'ai essayé de résumer ce que dit Saint François d'Assise, Saint Benoît, Saint Dominique, Saint Bernard, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, etc., etc. Pas facile. J'ai essayé. Je vous le lis cet après-midi. Je crois que c'est très important. L'esprit de pauvreté est une abdication. Ouais, Saint Joseph, hein. À abdiquer son autorité est une abdication de soi. Un dépouillement. Qui passe d'abord humainement par ce fait que toutes nos pauvretés, j'accepte qu'elles soient mises à nu, qu'elles soient dévoilées, acceptées et assumées. Vous savez, c'est le contraire de l'esprit du monde. Dans l'esprit du monde, on fait plein de mécanismes de défense pour ne pas voir ces pauvretés de fait. Je suis devant le Saint-Sacrement. Mais non, c'est moi qui ai le bon pèlerinage, je vis de marge. C'est un imbécile. Le bon pèlerinage, c'est celui d'esprit de pauvreté. On a dit. revendique tous ses droits. On ne se justifie. C'est cette espèce de maladie de se justifier tout le temps. Trouver toujours une raison qui montre que finalement, non, finalement, je n'ai finalement pas le droit, quoi. Et que c'est l'autre qui s'est foutu dedans, c'est son péché. C'est fou, quoi. C'est, on est bourré de ça. C'est effrayant comme truc. C'est diabolique. Les mécanismes de défense. T'approche pas. Quelquefois, on l'admet. On dit, t'approche pas, je suis une écorchée vive. Je suis une écorchée vive, je suis trop bêtise. Alors, tac, top. Je sais que je suis une écorchée vive. C'est surtout pour les femmes. Non, nous, les hommes, non. Mais pas celles qui sont ici. Hein. Ici, non. Ici, en dehors de tout ça. C'est évident, n'est-ce pas? Évident. Alors vous voyez, j'accepte mes pauvretés de fait, j'accepte qu'elles soient dévoilées. Et c'est pour ça que j'accepte de vivre en communauté, finalement, quelque part. Pour un ermite, c'est ça. L'esprit de pauvreté, du coup, fait que j'aime découvrir mon état de délabrement, de pauvreté, d'impuissance. Où on me reconnaît comme étant nul, c'est que me reconnaisse moi comme étant nul, c'est pas ça l'esprit pauvreté, c'est que les autres me voient étant nul. Alors à ce moment-là, je vais pouvoir intensifier la vertu de l'espérance, parce que dans cette pauvreté, je vais être plus. C'est dans cette pauvreté, ces pauvretés de fait, par exemple, je suis laid. C'est pour ça que j'aime bien Saint Jean de la Croix. Il était laid. Il était moche, vous ne pouvez pas imaginer comme Saint Jean de la Croix était moche. Il était moche, Gabriel. Petit trapu, ça. C'est pour ça qu'il s'était fait carme, parce qu'on ne pouvait pas le mettre comme apôtre. Mais la pauvre. Accepter ces pauvretés de fait, c'est très important, parce que du coup, dans ces pauvretés qui sont les nôtres, une pauvreté, c'est une oreille. Spirituellement, la pauvreté est une oreille. C'est ce qui nous permet d'entendre la voix du Père. Et si je ne rentre pas dans la pauvreté, je suis sourd à la voix du Père. Je suis plus sensible à la voix du Père. À la présence du Père, du Verbe incarné, du Papa de Jésus. Alors, quand je vais me livrer, quand je vais accepter de me livrer, de décider, de choisir l'Évangile, de choisir l'esprit de pauvreté, de me livrer dans l'esprit de pauvreté, depuis maintenant jusqu'à ma mort, alors à ce moment-là, je fais ce vœu. C'est la promesse de pénétrer dans un acte d'offrande de l'esprit de pauvreté totale, de me livrer dans cet abandon actif. Alors à ce moment-là, la miséricorde du Père va pouvoir commencer à me transformer et à faire que mes pauvretés, au lieu d'être une source de mécanismes de défense, deviennent une source d'abondance. Alors, ça, c'est ça. Et du coup, on est heureux d'être comme ça. Et la joie de Dieu domine. Alors, il y a évidemment plein de tendances contraires. Plein de pièges, plein de grimaces, plein de trucs dans lesquels il ne faut pas tomber. On pourrait peut-être avoir l'esprit de pauvreté, on va. Ah, moi je suis pauvre, regardez. Alors, il faut essayer de refuser les grimaces, de repérer les idées contraires à l'esprit de pauvreté et les idéologies dont nous sommes imprégnés et qui font qu'on ne peut pas vivre de l'espérance et de l'esprit de pauvreté. Les idéologies modernes, elles se résument à une qui domine complètement depuis la fin du XIXe siècle toute la pensée contemporaine. C'est Hegel. Ben, vous allez me dire, moi, Hegel, je ne connais pas. J'ai jamais vu. J'ai jamais entendu. J'ai jamais lu. Alors, je dis, vous direz, son disciple, Feuerbach, dit pareil, inconnu au bataillon. Bon, elle dit, ben, mais figurez-vous que, eh ben, c'est lui qui domine toutes nos intelligences contemporaines, même celles des chrétiens. Qu'est-ce que c'est ? En fait, l'athéisme est né de cette idéologie dont on est imbibé. Cette idéologie, elle dit, mais Dieu n'existe pas. Dans ton intelligence, tu ne peux pas saisir l'existence de Dieu. Dieu est inconnaissable. Dieu, toutes les idées, tout ce que tu touches, tout ce que ton intelligence atteint de Dieu, ce n'est pas Dieu que tu atteins. À chaque fois que tu dis, j'ai touché Dieu, j'ai touché l'existence de Dieu, c'est pas vrai. Tu n'as pas touché l'existence de Dieu, tu as touché ce qu'il y a de plus grand en toi-même. C'est-à-dire, tu t'es touché toi-même, tu as touché l'homme. En vérité, Dieu, celui que tu crois être Dieu, c'est l'homme. C'est ce qu'il y a de plus grand dans l'homme. Donc c'est pas moi. Le Dieu véritable des religions, des traditions religieuses, c'est ce qu'il y a de plus fort dans l'homme, de plus étonnant dans l'homme. Et toi tu dis que c'est Dieu. Eh ben non, c'est l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Et ne croyez pas qu'on ne sent pas, on est très imbibé de ça. On est très très imbibé de ça. Et du coup, on n'a plus la crainte de Dieu. Parce qu'on trouve Dieu en soi. Vous vous rendez compte ? Merveilleux. Alors, du coup, il n'y a plus la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est quelque chose de la crainte, une crainte révérentielle de Dieu. La crainte révérentielle de Dieu, c'est de voir que, au fur et à mesure que je touche Dieu, au fur et à mesure, je vois que je suis une pauvreté d'une inexistence. Et que Dieu est une splendeur, d'une dignité, d'une majesté écrasante. Alors du coup, la crainte référentielle de Dieu, c'est que je suis en dépendance totale de lui. C'est pas ce que je découvre de sublime en moi qui fait que Dieu existe, évidemment. Mais avec l'idéologie dans laquelle nous sommes, oui, on rentre en nous, on dit, mais c'est merveilleux, c'est l'homme. Et bon, moi je l'appelle Dieu, et ce Feuerbach, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit cette parole toute simple. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous dites sur l'excellence de Dieu, la simplicité, la bonté, la vérité, la perfection, ça c'est les attributs qui font l'homme. C'est ça l'homme. Tout ce que vous dites est vrai, mais vous touchez ce qui fait que l'homme domine sur tout, dans ses profondeurs cachées. Mais c'est l'homme, c'est pas Dieu. Vous dites c'est Dieu, mais c'est pas vrai. Cette pensée-là est une pensée athée, et on en est imbibé. Il faut la repérer, hein. Voilà, repérons-nous. C'est subtil, hein? concentration. Mais il faut la repérer. L'existentialisme de Sartre domine très fort aussi. Vous direz Sartre, Sartre, il était laid aussi. Hein. Bon, on a fait 68 ensemble, on va, t'es laid. C'est quoi Sartre? On en est imbibé. C'est dire, mais enfin, lâche-moi les baskets, je suis libre, quoi. Si j'ai envie de prier, lâche-moi. Quand on a un souci de sa liberté d'exercice, qui fait que sinon on sent qu'on n'est pas respecté. Ça, c'est Sartre, ça. On croit que c'est la liberté profonde, mais c'est pas la liberté profonde, ça, c'est la liberté artistique. On dit, oh, je suis pas libre de faire ça et ça et ça. Enfin, je suis libre quand même, je suis libre de faire du bien, ça. De faire. C'est extraordinaire, je suis libre de faire du bien. Tout de suite, hein. Attention, clignote en rouge, je suis libre de faire du bien. De faire du bien. Le bien ne se fait pas. L'homme n'est pas créateur de Dieu. C'est Dieu qui est créateur de l'homme. Attention. Je suis libre de faire du bien. Pourquoi est-ce qu'on peut se faire du bien? Mais faire du bien, c'est précisément laisser Dieu agir. Et du coup, je ne fais plus rien. C'est ça, faire du bien. Vous comprenez que l'existentialisme va dans le sens contraire de l'espérance. Dans la pauvreté, c'est Dieu qui fait tout. Et qui en fait tout de sa joie extraordinaire. Et quand vos gosses disent « Oh, quoi, là, là, comment ça? Qu'est-ce que tu fumes ?» Il y a ton papa qui dit, écoute Thérèse, mais laisse donc, il est libre quoi, il est libre, quelle liberté ceci, attention, oui il est libre c'est vrai, il est libre de faire du bien, il est libre de faire du mal c'est vrai, il faut le dire, il est libre de faire, c'est vrai, il est libre de faire, mais il faut aussitôt ouvrir en lui notre liberté, en plus. Pas confondre l'amour et l'art. Dieu et la beauté des œuvres humaines. Ça, c'est ça. Pour ça, il n'y a pas d'amour. Tu regardes l'autre, c'est l'enfer. L'enfer, c'est les autres. Alors, je suis libre. Dès que vous sentez cette réaction, vous m'en fâchez. Je suis libre, quoi, mais bien sûr. Je suis libre. C'est le contraire de la petitesse, de l'obéissance. L'obéissance, c'est Dieu, c'est un autre qui agit en moi. C'est un autre qui me fait agir. Tandis que dans faire, c'est moi qui fais du bien. Eh bien, faire du bien, c'est pas du bien, c'est être artiste. T'es un bon artiste, c'est tout. Et tout le bien que tu pensais avoir fait, eh bien, t'as rien fait. T'as fait du beau. Mais le beau périra. Et sous le feu purificateur, parce que ce monde aura une fin, tout ce que tu as fait de beau sera brûlé, comme la paille et le plomb. Il n'en restera rien. Tandis que si tu as laissé Dieu agir dans ta pauvreté, dans ton abandon actif, c'est pas pareil. Vous voyez, Sartre, il faut sentir que ça, qui est installé jusqu'à quelque chose. On en est imbibé de ça, complètement. Hein. Et puis, il y a une autre, c'est le positivisme d'Auguste Comte. Alors là, c'est la science. Il n'y a pas de... Le positivisme d'Auguste Comte, on en est complètement imbibé aussi. Et ça a l'air idiot, n'est-ce pas? Mais il faut repérer... pour Auguste Comte, la vérité, au fond, c'est le déploiement de toutes les potentialités de l'homme. L'homme peut se déployer quoi, dans toutes ses potentialités, et à ce moment-là, ce qu'on peut repérer de tous les déploiements des potentialités humaines, ce qu'on peut les repérer, on peut arriver quand même à les repérer, c'est ça qui est la vraie religion. La science, ce qu'on peut repérer de l'épanouissement de toutes les potentialités humaines. Voilà. Il n'y a que la science qui peut dire la vérité sur l'homme. Il y a uniquement ce qu'on peut repérer qui peut dire la vérité sur l'homme. Vous voyez, puisque pense Pilate, qu'est-ce que la vérité? Il était positiviste, hein, pense Pilate. C'est vrai, regardez, alors. Le suaire, c'est le Saint-Suaire, c'est la science. Attends, qu'est-ce que dit la science? C'est incroyable. Vous allez voir plein de cathos, etc. Attends, moi, j'aimerais savoir ce que dit la science sur le suaire. Moi, je vais vous dire une chose, je m'en fous complètement. Mais alors, complètement. Mais je sais ce que dit la science. La vérité ne vient pas de la science. C'est drôlement important, ça. La science ne nous dit rien sur la vérité. Elle nous donne simplement des hypothèses de travail, comme ça, de l'extérieur, quoi. C'est contre la grâce, le positivisme. S'appuyer uniquement sur la science pour appréhender une vérité. Par exemple, prends la Bible. On est chrétien, donc on prend la Bible. Alors, voyons ce que dit la Bible. Et puis, je vais faire de l'exégèse. Historico-critique. Je vais prendre une paire de ciseaux. Ça, c'est pas cohérent avec ça. Bon, ça doit venir des Chaldéens, ça doit venir une communauté du 3e siècle après Jésus-Christ, c'est un rajout postérieur, en toute logique, ça, c'est un truc. Enfin bref, tu peux jeter ta Bible à la poubelle. À la poubelle. Parce qu'il y a la approche scientifique qui nous fait dire la vérité, pas du tout. Ce n'est pas vrai. La vérité vient, c'est une personne divine, c'est le Fils de Dieu. C'est dans les Midrash rabbiniques, vous savez, qu'il y avait là, avant que Dieu ne crée le monde, Dieu crée six choses. Dans le Bereshit, dans le principe. Oh, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Dans le principe Bereshit, Dieu, avant de créer, dans le Bereshit, il met six choses. Il met la présence du Messie, la présence de la grâce, le trône du Saint des Saints, le corps mystique du Messie. Il met le Beit HaMikdash, le temple. Il met l'impératif de la Torah, d'amour de Dieu et du prochain. Il crée six choses avant de faire le premier acte créateur. Et puis, on lui dit, oui, mais avec ce qu'on va créer, peut-être que ce ne sera pas très bien utilisé, tout ça. Alors, il crée une septième chose. Il crée la repentance. La possibilité de la repentance. La septième chose, ce qui peut ramasser le reste. Et les anges disent, mais si tu mets la repentance, il y a des gens dans la création qui font prendre des six, des six splendeurs et qui vont, et Dieu dit la vérité, la repentance. Oui, mais il y a le septième, et grâce à la septième, la vérité sera jetée à terre, incarnation. C'est Moïse qui disait ça, c'est un midrash de Moïse. La vérité jetée à terre, c'est important, c'est pour reprendre après. C'est pour tout reprendre. On reprend la vérité à partir de Jésus crucifié. C'est uniquement le cœur de Jésus crucifié qui est source de vérité et de compréhension, de cohérence divine. Il voyait naître de cette béante ouverture, pauvreté du cœur de Jésus ouvert, la naissance de la vérité. Et c'est pour ça que de temps en temps, il y a le petit Jésus qui lui apparaissait sur la Bible assis. Il dit, ah tiens, il sortait de la Bible, quoi. Alors il le caressait, caressait. Et il dit, oh, ça suffit, ça suffit. Et la vérité, c'est ça, c'est que c'est Dieu qui engendre pour nous la vérité de manière visible. Et si je ne lis pas la Bible avec ça, je ne comprendrai rien à la Bible. Et puis Jésus ne pourrait pas le caresser. Et la vérité, c'est ça. C'est rentrer dans l'immense caresse mutuelle de Dieu et du Christ avec nos pauvretés, nos besoins, nos soifs. Donc il faut rejeter ça. Il faut rejeter les caricatures. Les caricatures, je vais vous en donner une petite liste. Le messianisme temporel est la première caricature de l'esprit de pauvreté. Dans l'esprit de pauvreté, c'est le désir du royaume de Dieu. Le désir du royaume de Dieu en plénitude, la victoire de l'amour surtout. Et donc, c'est rabaissé quelquefois par certaines personnes en un messianisme temporel. En disant, ben voilà. Mais oui, Dieu va venir, il va nous donner la victoire sur la terre, l'Église va être triomphante, ça va être formidable. C'est ça mon espérance. Non ! L'espérance chrétienne, celle qui vient du Christ, celle qui est révélée par les Écritures, c'est pas un messianisme temporel. Au niveau temporel, c'est la pauvreté. C'est notre seule espérance. C'est que l'Église devienne de plus en plus dépouillée, pauvre. Et que du coup on vive à travers ça, de la victoire de Dieu au ciel, dans la gloire. Le messianisme temporel, c'est de ramener la victoire de Dieu à notre niveau terrestre. Alors, c'est pas du tout d'amener la pauvreté de la terre à l'intérieur de la victoire de Dieu, à l'intérieur de Dieu éternellement. Vous voyez ? C'est inversion du messianisme temporel. C'est tout. Ça, c'est toutes les tentations intégristes, vous voyez, l'islam intégriste, c'est ça, quoi. C'est de ramener par la force. Là, 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 c'est Dieu, quoi. C'est pas bien. Et puis, c'est d'être tranchant, vous savez. On n'a pas le droit. C'est une question de droit. L'espérance consiste à renoncer à tous ses droits. Jésus, on l'a bien vu, a renoncé à tous ses droits. Pour qu'il n'y ait plus que la Sainte Trinité dans les pauvretés des hommes et dans l'éternité, vous voyez. Alors, le messianisme temporel, il faudrait rester longtemps là-dessus, vous voyez, je pourrais rester au moins 5 heures rien que là-dessus. Parce que ça, c'est une tentation moderne. La tentation moderne maximum, c'est celle-là. Et les deux cornes de Satan sont là ici. Le nouvel âge, messianisme temporel. Le nouvel âge. Ah oui. Ça me fait du bien. Alors je prends le rayonnement de l'Eucharistie. Mais je prends. Mais le Christ, ça m'intéresse pas. Je prends. Je vais à la messe parce que ça me fait du bien. Je vais dans cette liturgie-là parce que je suis bien. Enfin, c'est femmes, quelquefois, ça, on voit ça. Le nouvel âge consiste à aller dans certains lieux, parce qu'on se recharge. Vous comprenez? On se recharge. Et alors après, quand on se trouve bien dans son rechargé, on est bien rechargé, on est bien dans sa bulle, ça, bien rechargé, et ben, du coup, on peut pas être atteint par les autres. Il y en a qui font ça, les sorciers font ça, les médiums font ça. Ils courent dans ces lieux-là, Notre-Dame du Lot, etc. Ils courent partout pour pouvoir être rechargés, et alors après, ils peuvent agir, faire leur trafic de magie blanche. Le Nouvel Âge, ils veulent vivre, être remplis des énergies du Christ cosmique, des énergies. Pourquoi ? Parce que dans les lieux saints, dans une messe, dans une eucharistie, ça c'est pour des gens, et encore, il faut faire attention, c'est subtil ça, hein, comme messianisme temporel, dans un lieu comme, je sais pas, de prière, comme Notre-Dame du Lot, je sais pas, ouais, je me rappelle d'un groupe du Nouvel Âge qui avait été là pendant 3 mois de suite à Notre-Dame du Lot. Ils étaient là, et effectivement, ils prenaient. C'était des gens qui étaient des disciples de Blavatsky. Donc, voilà, c'est consacré à Satan, quand même. Directement. Et donc, et c'est eux qui étaient chargés de l'accueil des jeunes pendant 3 mois. Voilà, j'ai dit ça à l'évêque. J'ai dit, écoutez, excuse, mais vous avez vu leur papier, Blavatsky, machin truc. Ah, dit, ben non. Bon, enfin, personne ne le lui avait dit à l'évêque. Personne n'avait vu ces papiers, quoi. Mais c'était beau, hein, ce qu'ils faisaient, c'était beau, hein. C'est les sons, c'est l'ouverture, etc. Voilà. C'est beau. Alors, ils viennent là, ils se remplissent des énergies. Pourquoi ? Parce que la prière, la présence de Dieu, l'Eucharistie, la présence de Marie, la sanctification du lieu, ont fait que la nature, les arbres, les rochers, les minéraux, les églises, les pierres, le corps des hommes aussi, la prière a retrouvé un état de nature normale. Un état de nature normale. C'est vrai, la grâce fait que la nature retrouve son état normal, de rayonnement normal. Voyez bien. Alors, s'ils ont besoin de recevoir les énergies et les forces de la nature pour pouvoir les redistribuer dans une puissance de guérison, ils ne vont pas aller à Paris, sauf s'il y a le pape. Ils ne vont pas aller à Paris, ils ne vont pas aller à Marseille, ils ne vont pas se mettre devant le poste de télé, ils savent bien que le poste de télé est vide. Alors, du coup, ils vont dans ces lieux-là. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, ou dans un endroit où il n'y a pas la prière, les arbres, les plantes, les minérales et les hommes qui passent ont perdu leur état de nature normale. Et du coup, ils ne sont plus régénérateurs de la nature perdue de celui qui y va. Quand tu diminues, il veut faire ce qu'il veut. Avec les énergies positives. C'est l'orgueil fou du monde spirituel, du Nouvel Âge. Et alors, du coup, ils vont, une fois qu'ils sont bien vidés, ils revont dans ces endroits-là, ils reprennent les forces des énergies christiques, du Christ cosmique. Donc, ils ne prennent pas la présence du Christ, la substance du Christ, la grâce du Christ, mais ils en prennent le rayonnement, les effets. Ils se repompent, et puis après, ils repartent. Ils se revident, et puis après, ils vont reprendre. L'Eucharistie, c'est très bien parce que je prends les énergies qui sortent de l'Eucharistie, mais la transsubstantiation, être moi-même entièrement livré en holocauste d'amour, puisque Jésus est livré en holocauste d'amour, ça non, c'est pas leur truc. Vivre de Dieu, c'est pas leur truc. C'est recevoir une force qui leur permet de faire quelque chose qui leur paraît être beau, bien. Harmonique, harmonieux. être source de rayonnement et d'énergie. Ça, vous voyez, ça, c'est la spiritualité de l'Antichrist. On y reviendra. C'est le premier extrême. Le second, c'est l'intégrisme. C'est l'islam. C'est un espèce d'islam. Vous voyez ce que je veux dire ? Très, très tordu, quoi. Ici, il faut que Dieu règne. La deuxième caricature, c'est la fausse humilité. Quelquefois, dans l'espérance, il faut être vraiment pauvre, humble, petit, tout petit, comme exactement dans le même état qu'on était dans l'innocence de la première cellule. Si vous voulez savoir l'état dans lequel il faut que vous soyez pour vivre de l'espérance, remettez-vous, faites mémoire, comme dit saint Augustin, faites mémoire, comme dit la Bible dans l'Ancien Testament, faites mémoire, comme Jésus dit, faites mémoire, dit Caroni, faites mémoire de moi. Faites mémoire, rappelez-vous comment vous étiez quand vous étiez juste de 9 mois avant de naître, au premier instant, que Sainte-Thérèse de l'Avila vient de décrire. C'est dans un état de petitesse incroyable et pourtant d'une grande. Un élan, un oui, un fiat éternel incroyable, une disponibilité, une confiance, un élan. C'est Dieu qui faisait tout, et vous, vous rentriez dans l'amour. Une fausse humilité, mais repérer la fausse humilité sur soi-même, c'est plus difficile. Ah bah écoutez, c'est facile, si vous voulez repérer, si le soir vous êtes fatigué, si vous vous forcez à vous humilier, c'est par contrainte, ouais, par contrainte, et bien le soir, quand vous vous couchez, vous êtes découragé. Si c'est de la fausse humilité, le soir, vous êtes découragé. Le découragement est l'enfant de la fausse humilité. C'est important de comprendre ça. Parce que c'est normal, vous vous forcez à faire des choses petites. Allez, par humilité, je vais faire la vaisselle. Hein. Bon, par humilité, moi je suis humble, hein, moi je vais faire un petit service. Hein. Par humilité, je vais me forcer. Je vais rentrer dans des choses petites, pauvres, humiliantes, je vais me forcer. Et du coup, je serai découragé. Et si le soir vous arrivez, au moment de faire la vaisselle, vous dites, la vaisselle, mais vous êtes vraiment découragé, quoi. Ben, c'est sûr que vous avez passé votre journée dans la fausse humilité. Comme ça qu'on reconnaît la fausse humilité. C'est facile à reconnaître. Mais si personne n'est découragé, c'est pas un problème. Donc, on passe à autre chose. Et la véritable humilité, c'est ce qu'on va voir. Elle se trouve dans l'espérance. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Où est la véritable humilité ? La véritable humilité, c'est quand on est joyeux. On trouve cette joie initiale. On la retrouve. On n'a pas besoin de chercher des énergies à l'extérieur. Hein. Dans des énergies cosmiques répandues, n'est-ce pas ? Ou dans des gens qui vont nous rejeter magnétiquement. Notre énergie, c'est là, la présence actuelle et vivifiante de la Créateur de Dieu dans notre petitesse. Alors ça, on retrouve ce oui, on dépend que de Dieu, il y a Dieu qui agit. À ce moment-là, on devient petit et pauvre, vous voyez. Donc, mais quand on ne vit pas comme ça notre humilité, on ne se force. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la vaisselle, hein, je n'ai pas dit ça. Si vous faites la vaisselle, mais si vous voyez que vous dites, oh, il faut que je sois poli, donc, oh, ça m'embête. Clignote en rouge. Alarme. Je fais la vaisselle, mais contraint, découragé. Ah, bon, vite. Je fais un acte d'adoration. Je me remets dans un état d'innocence. Je retrouve mon oui originel. Et c'est Dieu qui va faire la vaisselle, c'est pas moi. Et pourtant, mes mains vont la faire.
C'est pas moi qui est un rêve, c'est Dieu, c'est ce oui, Dieu m'a créé. Et moi, je me laisse emporter, ça, c'est formidable. Pourquoi est-ce que je suis découragé? Parce que la vaisselle, c'est petit, ça me convient pas. Laver des trucs avec une marque que j'aime pas. Tandis que quand c'est Dieu qui est là, c'est à ma hauteur, vous comprenez, on est joyeux. C'est pour ça que la véritable humilité nous rend joyeux. Et si je rentre dans la fausse humilité, c'est que Dieu est absent, et donc je n'ai pas fait un acte de vérité, d'amour, d'espérance. La troisième caricature, c'est la mystique facile. La mystique facile. Bon, la mystique facile. On appelle ça les mystico-dingos, n'est-ce pas? Mystico-dingos. C'est formidable. J'ai eu une vision formidable, j'ai vu une fleur, elle dansait, puis le soleil s'est mis au milieu, c'est... Quelle grâce, j'ai pris la photo, et tac, une lumière qui apparaît sur la photo, oh, c'est fou, quoi. C'est des mystico-dingos, quoi. Des trucs complètement rien à voir. Il y en a plein. Alors, ici, non, ça n'existe pas. Hein? Alors, la mystique facile. En vue de Dieu, du coup, on se nourrit de révélations privées. Le verbe, j'ai jamais entendu parler. Oh. Jamais. C'est fou. La mystique facile, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter de temps en temps les prophètes. Très bien, on les écoute, mais ça ne nous nourrit pas. Et on ne s'appuie jamais dessus. C'est une très grave erreur et un péché grave contre la foi. On se nourrit mystiquement de la croix du Christ. Le candidisme infantile. Ah, alors on est candide. Ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est un mécanisme de défense, c'est psychologique. On devient candide. Ah, mais tout va bien. Mais pourquoi? Mais tout va pour le mieux. C'est Candide, c'est Voltaire qui a écrit Candide. Hein. Les gens, les cathos, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Et il a raison. Candide, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des bombes atomiques. Enfin, à cette époque-là, mais enfin, tout le monde écorché, le vif, les membres arrachés. Candide, il arrive. Ah, mais tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Mais oui, tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, c'est formidable, c'est très bien, mais c'est parfait, c'est pas grave, mécanisme de défense surtout, non, je ne traverse pas la croix, je ne veux pas la voir. Alors du coup, je réagis par des mécanismes de défense invraisemblables, le candidisme, là, je tombe dans l'infantilisme. C'est le contraire de l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance est un esprit de sagesse, un esprit adulte. On va regarder ça aussi. Le murmure. Alors, vous avez le murmure, attention, il faut rejeter le murmure. Attention, donc dès que vous êtes là en disant « Allez !» Il ne me respecte pas. Le murmure, moi ça m'arrive souvent, le murmure tout le temps. C'est vrai, quand il y a le murmure, commence à monter. Vous savez ce que le murmure? Pas besoin de vous, si, j'ai besoin de vous expliquer. Il faut que j'explique le murmure. Bon, le murmure, c'est. Je dis, oh, pas de moi, il me reconnaît pas, il m'en a pas, il n'a pas dit la messe, hein. Il n'a pas dit le, il n'a pas dit le, je sais pas quoi. Il a dit réjouis-toi au lieu de je vous salue. Il a dit le murmure. Mais un enfant, est-ce que ça le préoccupe ça? Le petit Jean qui est là. Et il va dire, si tu dis, allez, on va dire, notre Père, qu'est-ce que ton nom soit sanctifié. Ah ben notre Père, ton nom soit sanctifié. Non. Allez, Jean, notre Père, qu'est-ce que votre nom soit sanctifié. Ah, que votre nom soit sanctifié. Pour lui, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de murmure. Parce que quand vous dites, notre Père, que votre nom soit sanctifié, c'est beau. Pourquoi? Parce que notre Père, ils sont plusieurs. Donc c'est vous. Il y a le Père du Verbe de Dieu, il y a la très sainte Trinité qui me crée, qui m'a donné la vie, il y a Jésus sur la croix qui est mon Père, qui me recrée, il y a Saint Joseph qui est mon Papa, qui me recrée aussi pour la vie éternelle. Alors, notre Père qui soit sûr, que votre nom, que votre présence. Il y a plusieurs personnes, j'ai jamais oublié ça. Mais si tu dis, notre Père qui soit sûr, que ton nom soit sanctifié, ah, alors là, c'est plus moi, c'est le Verbe de Dieu. Et qui a pris la place, et qui est face à la première personne, et qui lui dit tu. Les deux sont vrais. Mais comme je ne suis pas pauvre, je suis incapable de le saisir. Alors je murmure. Parce que je ne suis pas du tout en Dieu. Le murmure, en espérant dans ces états de murmure, la gloire humaine, voilà encore une autre caricature à rejeter absolument. La gloire humaine, c'est quoi? C'est contraire à l'esprit de pauvreté. C'est une. Pourquoi? Parce que je vais louer quelqu'un. Vous voyez? Je vais dire, voilà, je suis dans une communauté, il y a un berger, il y a le père abbé, voilà le père abbé. Oh, la mère abbé, tiens, la mère abbé. Je suis dans un carmel, il y a la mère abbé. La mère abbé, c'est formidable. Hein? Alors, je vais rentrer dans une espèce de. Oh, ma mère, c'est vraiment quelque chose d'elle, vous êtes formidable, etc. Je vais lui donner beaucoup de gloire, comme ça je serai bien vu. Je vais la mettre au-dessus de tout, quoi. Je vais lui parler, la gloire humaine s'obtient par une espèce de louange de mise au-dessus de l'autre, mais c'est pour obtenir. Du coup, la mère abbesse dit, oh, cette petite est formidable. Ça, c'est une caricature. Il faut la relever. Saint Thomas d'Aquin dit, c'est une obéissance indiscrète. C'est un péché mortel. Quand vous obéissez, obéissance indiscrète, je vous explique ça parce que aujourd'hui on est tellement nul qu'on ne comprend pas ces choses élémentaires. Même dans la vie religieuse. Il y a des gens qui tombent dans des états d'amertume et de scrupules, quoi, parce qu'ils ont l'impression de désobéir, alors qu'au contraire, quelquefois, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut lui dire. C'est votre mère abbesse. Mais il faut lui dire, ma mère, il me semble que ça, c'est contraire à la vérité, ça. Mais je ferai tout ce que vous me direz. Mais si vous dites, c'est formidable, vous êtes la mère abbesse, oui, on doit suivre tout ça, accepter tout. Non, si c'est contraire à la vérité, on ne doit pas l'accepter. Et l'obéissance indiscrète, vous voyez, c'est d'obéir à des choses auxquelles on ne doit pas obéir, quelque part, voyez. Mais c'est pour plaire, on obéit pour plaire, pour pas avoir d'ennui. Et si c'est en conscience, on se dit, mais là il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors à ce moment-là, on ne doit pas décider que ça ne va pas, attention, on ne doit pas murmurer. On doit le dire, on doit dire voilà, on doit ouvrir son cœur et on doit dire écoutez, voilà, et il me semble que là je ne suis pas d'accord, il me semble que vraiment ça ne vient pas de Dieu. Ce que vous dites là, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que Quand vous dites par exemple que le Saint-Père est complètement nul, je m'excuse, ça ne vient pas de Dieu. Ce qu'il dit, c'est hérétique, je m'excuse, ça ne vient pas de Dieu. Ça. Oh, quand même, je suis ton supérieur. Mais on doit le dire, on doit le dire. Mais ceci étant, on doit quand même abdiquer tous ses droits. Et puis voilà, si vous dites, bon, à partir de maintenant, pour te faire réfléchir, à qui est-ce qui a raison, tu mangeras une soupe à l'ail pendant 40 jours. Très bien, tu mangeras la soupe à l'ail pendant 40 jours. Mais, oui. Tandis que si tu t'aplatis en disant, ben voilà, je veux bien suivre quelque chose qui est faux, et y coopérer sans rien dire, péché mortel. C'est une matière grave. On n'a pas le droit. L'obéissance est aller au-devant du désir de Dieu, à l'intérieur du supérieur, ce qui est différent. Hein. Donc tout ça, c'est pour la gloire humaine. La gloire humaine, notre gloire divine, c'est d'être humble, petit et pauvre. Mais notre gloire humaine se nourrit toujours de la gloire réciproque. Il ne faut jamais oublier ça. Quand on cherche sa gloire humaine, on l'obtient en étant des faillots. Toute gloire humaine, quelle qu'elle soit, s'origine dans le faillotage, vous le savez ça. Ça c'est l'expérience quotidienne du monde communautaire, social et politique. C'est une matière terrible. Parce que la gloire divine, la gloire des saints, c'est d'être crucifié. C'est de laisser Jésus être crucifié. On y reviendra là-dessus. Donc, les garde-fous, ça c'est tout ce qui n'est pas. Oh, mon Dieu, mais je vais m'arrêter, il faut absolument que quelqu'un m'arrête à chaque fois.